Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui de comment parvenir à rendre le bien pour le mal. L'amour des ennemis, le pardon des offenses et rendre le bien pour le mal. Voilà trois caractéristiques majeures du christianisme. Mais le chrétien peut à bon droit se poser la question de savoir comment pratiquer ces trois préceptes qui entrent en contradiction avec la nature humaine, plutôt portée à la vengeance, à rendre coup pour coup et à vouer aux gémonies ceux qui nous ont blessés. En fait, trois conditions sont requises pour les mettre en pratique. Acquérir la foi, l'espérance et la charité. Les trois vertus théologales. Voyons cela en détail avec chacune d'entre elles. Premièrement, la foi. Par elle, le chrétien croit que Jésus a vaincu la mort en pardonnant à ses ennemis. C'est en rendant le bien pour le mal sur la croix qu'il a mérité le salut pour tout le genre humain. Aussi, ce précepte, loin d'être secondaire, a constitué la substantifique moelle de la vie de Jésus. De plus, la foi reconnaît en lui le Verbe de Dieu, la parole. Or, cette parole nous a demandé explicitement d'aimer nos ennemis. Par la foi, le chrétien reconnaît donc la centralité du précepte de toujours répondre au mal par le bien. Seconde raison, l'espérance. Cependant, le chrétien n'est pas un surhomme. Ce que le Christ lui demande doit être motivé non seulement par l'amour fraternel, mais aussi par une espérance qui rende l'application du précepte, sinon plus facile, du moins plus gratifiante. C'est ici qu'intervient la vertu d'espérance. Avec elle, le chrétien est convaincu que Dieu récompense les actes héroïques de charité et que seuls ces derniers, parmi toutes les activités que nous aurons accomplies sur terre, nous suivront dans le royaume de Dieu. Toutes les autres activités n'y rentreront pas. Les actions mauvaises ou égoïstes, nous devrons en effet en être purifiés. Dans cette perspective, le chrétien qui rend le bien pour le mal a en vue l'éternité que Dieu lui promet, cette éternité qui n'est d'ailleurs autre que Dieu lui-même. Et pour s'accoutumer à vivre avec lui dès maintenant, avec Dieu, il est bon de vivre selon ses mœurs. Or, le Très-Haut aime tous les hommes et fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes, comme dit Jésus. À notre tour de l'imiter, en priant pour tous les hommes, même pour ceux qui nous sont hostiles. Tels sont les principaux motifs d'espérance qui nous poussent à rendre le bien pour le mal. Enfin, troisième raison, la charité. Bien que nous l'ayons gardée pour la fin, la charité reste toutefois la principale vertu à acquérir pour être capable d'aimer nos ennemis. En effet, afin que ce précepte ne reste pas un commandement extérieur à pratiquer seulement par devoir, mais pour qu'il devienne l'âme de son action, de l'action du chrétien, celui-ci, le chrétien, doit se l'approprier et l'intérioriser de telle façon à ce que l'amour des ennemis sorte de lui comme d'une source. Or, cet objectif serait irréalisable si le disciple de Jésus n'avait pas la possibilité de faire sienne la charité du Christ lui-même, notamment par le moyen des sacrements et de l'Esprit Saint qui est l'amour divin en personne. Dès lors que le Christ et l'Esprit vivent en lui, dans le chrétien, l'amour de ceux qui ne l'aiment pas lui devient plus facile. L'amour de ceux qui ne l'aiment pas lui devient plus facile. La charité surnaturelle, divine, constitue le moyen principal pour pratiquer cet amour des ennemis qui, à vue humaine, semble relever du vœu pieux.